autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour secouer le cocotier de notre bonne conscience écologique en mettant en question les politiques de protection de l'environnement à l'œuvre sur le continent. Depuis la fin du 19e siècle, la création des premiers parcs naturels africains pour sauver une nature forcément vierge et sauvage de ses habitants, c'est toujours la même logique qui perdure. Un siècle et des milliers d'expulsions plus tard, peut-on parler d'un colonialisme vert ou des nouveaux habits verts du colonialisme? C'est la thèse défendue par notre invité, l'historien de l'environnement Guillaume Blanc, qui a mené l'enquête dans les parcs naturels du continent, en particulier dans celui des montagnes du Simien, en Éthiopie, classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Il vient de publier un ouvrage qui détonne dans le paysage, L'invention du colonialisme vert, pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, aux éditions Flammarion, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Autour de la question: y a-t-il un colonialisme vert? Bienvenue pour nous interroger ensemble sur nos contradictions.
Quand on voit l'extraordinaire richesse qu'on ne connaît même pas dans le bassin du Congo disparaître avec la déforestation, on ne peut être qu'heureux qu'il y ait des parcs nationaux qui se mettent en place. Mais comment faire en sorte aussi que ces parcs s'ajustent aux besoins des hommes? Il faut se méfier de la manière dont on peut mobiliser le chiffre que je vais donner, mais on sait qu'il y a 14 millions de personnes qui, dans le monde, ont été déplacées pour réserver des espaces vides d'hommes. Bon, on ne peut pas vraiment continuer dans ce sens-là, donc il faut réussir à mettre en place des parcs ou des réserves qui soient conciliables avec les intérêts des espèces présentes face aux changements en cours, mais aussi avec les intérêts des hommes. Et ça, c'est évidemment une sacrée paire de manches.
Une sacrée paire de manches, en effet, comme vient de le souligner l'écologue du CIRAD, Jacques Tassin, qui nécessite d'abord de revenir sur un mythe, celui d'un Éden africain menacé par les Africains eux-mêmes. C'est à ce mythe que vous vous êtes attaqué, le mot n'est pas trop fort, Guillaume Blanc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous.
Merci
autour de cet ouvrage donc, que vous publiez aux éditions Flammarion et qui fait déjà grand bruit, L'invention du colonialisme vert, préfacé par le professeur François-Xavier Fauvel, titulaire de la chaire d'art archéologie et d'histoire des mondes africains au Collège de France. Et ce n'est pas un hasard. Il s'agit bien, Guillaume, de remonter et de changer le cours de cette histoire pour y reconnaître enfin la place de l'Afrique. Je rappelle que vous êtes historien de l'environnement, spécialiste de l'Afrique contemporaine, maître de conférence à l'université Rennes 2. C'est votre thèse intitulée « Regards croisés sur les parcs nationaux du Canada, d'Éthiopie et de France » qui vous a, pourrait-on dire, Guillaume Blanc, ouvert les yeux, incité à poursuivre vos recherches, notamment dans ce parc naturel des montagnes du Simien en Éthiopie, classé parc patrimoine naturel mondial par l'UNESCO.
Oui, en fait, quand j'ai fini ma thèse, donc qui était une histoire comparée de trois parcs nationaux, j'ai fait le choix de continuer exclusivement sur l'Éthiopie en particulier, l'Afrique de l'Est, l'Afrique en général, parce que j'ai voulu creuser justement le paradoxe que j'avais découvert pendant ma thèse, à savoir que dans les Cévennes, des institutions internationales comme l'UNESCO valorisaient ce qu'ils appellent l'agro-pastoralisme, donc des agriculteurs et des bergers. Et c'est même la raison pour laquelle les Cévennes, en France, sont classées au patrimoine mondial de l'humanité. C'est indiqué sur le site internet de l'UNESCO, car l'agro-pastoralisme a façonné les paysages depuis 3000 millénaires. Et puis quand on arrive dans le Simien, en Éthiopie, eh bien le parc est classé au patrimoine mondial, mais en péril, depuis une vingtaine d'années, et l'UNESCO explique la raison de ce déclassement, car l'agro-pastoralisme menace la valeur naturelle du bien.
Ah, et donc, ce qui est valable dans les Cévennes ne l'est plus du tout dans le parc du Simien,
voilà,
en Éthiopie.
Voilà, ce que l'UNESCO valorise dans les Cévennes, elle le condamne en Éthiopie. Et là, je me suis intéressé à ce paradoxe de me dire, alors, on a un même paysage, agro-pastoral, mais on a une histoire d'adaptation, cette histoire est européenne, et on a une histoire de dégradation, cette histoire est africaine. Et c'est là où ça m'a amené à faire ce constat du paradoxe de ce qu'est le colonialisme vert. C'est-à-dire de constater qu'aujourd'hui encore, dans les parcs nationaux d'Afrique, dans les cas les plus atroces, certaines personnes sont abattues par des gardes de parc, mais des centaines de milliers de gens sont encore expulsés pour vider les parcs et des millions d'agriculteurs et de bergers sont punis d'amendes, de peines de prison, tout simplement pour cultiver la terre, faire pâturer leurs troupeaux, habiter l'espace. Certes, on n'est plus dans la colonisation avec le fardeau civilisationnel de l'homme blanc, mais il y a un fardeau écologique de l'expert occidental et l'esprit reste le même. Le monde moderne devrait sauver l'Afrique des Africains. Et c'est la matrice du colonialisme vert qui est un phénomène actuel.
Pour en finir, hein, c'est le sous-titre de votre livre, L'invention du colonialisme vert, pour en finir avec le mythe de l'Éden africain. Parce que tout ça remonte bien loin, finalement, à un imaginaire très occidental qui date de la colonisation. Qu'est-ce que c'est que ce mythe de l'Éden africain, d'une Afrique forcément sauvage, avec une nature éblouissante, d'un paradis perdu qu'il faudrait donc sauver de ses habitants eux-mêmes, c'est bien ça, hein ?
C'est tout à fait ça. Bien, en fait, alors, en soi, hein, l'idée d'une Afrique naturelle, exclusivement naturelle, c'est une idée aussi absurde que celle selon laquelle l'homme africain ne serait pas assez rentré dans l'histoire. Mmh. Pour la comprendre, il faut remonter au début de la colonisation européenne de l'Afrique, fin 19e siècle. En fait, les colons européens laissent derrière eux une Europe qui se transforme sous les coups de la révolution industrielle, de l'urbanisation, de l'industrialisation. Et ils croient retrouver en Afrique la nature qu'ils ont perdue chez eux. Mmh. Et là, ils vont alors d'abord mettre en place des réserves de chasse qui deviendront des parcs nationaux. Et ils vont inventer alors, le mythe finalement du bon et du mauvais chasseur. Le bon chasseur blanc, sportif, qui chasse le trophée au fusil et avec bravoure. Et le mythe du mauvais chasseur, le braconnier noir, qui chasserait la viande et non pas le trophée, et non pas avec bravoure, mais avec cruauté. Et tout ce mythe de l'Éden africain, qu'il faudrait donc préserver des Africains, va être en fait relayé, renforcé par toute une série, disons, de produits culturels. On va avoir les récits de voyage de Stanley et Livingstone à la fin du 19e, et puis les récits de chasse de Churchill, de Roosevelt, et puis ça va se prolonger. Les Racines du ciel de Romain Gary en 56, puis Out of Africa de Karen Blixen, et puis le National Geographic, le Lonely Planet, le Roi Lion. Et tous vont décrire une Afrique...
C'est plus la chasse, ça peut être le safari photo, alors, mais on décrit une Afrique qui aurait été préservée miraculeusement, enfin, qu'il faudrait continuer à préserver miraculeusement.
Voilà, alors ce n'est plus la chasse, tout simplement pour la bonne raison que les Européens, une fois qu'ils ont intensifié la chasse à la grande faune à la fin du 19e siècle, à partir de 1920-1930, la grande faune avait quasiment disparu. Donc c'est ce qu'on a appelé le syndrome...
Des Européens plus que...
Les Européens, avec des relais africains, puis des relais indiens qui vendaient en fait le produit des grandes chasses aux Américains, aux Européens. Mais oui, la chasse a été intensifiée à la fin du 19e siècle. On compte environ 65 000 éléphants chassés par an à la fin du 19e siècle. C'est là que la grande faune a commencé à décliner. Mais donc ensuite, c'est devenu des parcs nationaux. Mais l'idée selon laquelle l'Afrique serait cette planète verte, vierge, sauvage, sans homme, cette idée, en revanche, a perduré.
Elle a perduré, elle perdure, elle est mieux qu'un long discours, vous l'avez cité, il y a un film qui a d'ailleurs fait polémique et qui illustre cette croyance, cette mythologie qui se perpétue jusque dans l'esprit des enfants. Bah oui, c'est le Roi Lion, petit extrait d'une scène qui vous énerve tout particulièrement, Guillaume Blanc, vous nous direz pourquoi ensuite.
Regarde Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi.
Et tout ça m'appartiendra ?
Absolument tout.
Tout ce qui est dans la lumière ? Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi ?
Notre royaume s'arrête à cette frontière. Tu ne dois jamais y aller.
Moi, je croyais que les rois faisaient ce qu'ils voulaient.
Le devoir d'un monarque va au-delà de sa volonté d'agir.
Non, c'est vrai ?
Oui, mon fils. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. En tant que roi, il te faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures, de la fourmi qui rampe à l'antilope qui bondit.
C'est la scène d'ouverture, hein, en gros, du Roi Lion. Alors pourquoi elle vous énerve et pourquoi elle illustre aussi parfaitement, Guillaume Blanc, ce mythe de l'Éden africain toujours aussi vivace ?
Alors je dirais qu'elle m'énerve puisque dans ce Roi Lion, tout le monde sait que la scène, que le film se déroule en Afrique, tout le monde le sait, mais il n'y a pas d'Africains. Ensuite, là c'est le côté prof d'histoire sûrement, le Roi Lion s'est inspiré d'un manga qui s'appelle Le Roi Léo, qui a été écrit à la fin des années 50 par un japonais, Osamu Tezuka, puis qui a été mis en feuilleton, et dont Disney s'est inspiré dans les années 90. Et donc on a cette planète verte. Mais le conte est touchant, attendrissant, il est réussi bien entendu. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, les conservationnistes aujourd'hui, en Afrique, agissent comme des rois détrônés, qui seraient les seuls capable de savoir comment restaurer le cercle de la vie, comment restaurer cette planète verte. Dans le Roi Lion, les lions doivent combattre les hyènes, destructrices puisqu'elles brûlent la forêt et la savane. Eh bien, les conservationnistes, ils se battent contre les agriculteurs malhabiles, destructeurs, qui brûlent la savane. Donc ce conte est trop problématique pour qu'on n'y fasse pas attention. L'Afrique qu'on nous décrit, l'Afrique, les parcs africains ne sont pas vides, ils ont été vidés de leurs habitants. Et c'est bien cela qu'il faut aujourd'hui accepter.
Ils ont été vidés de leurs habitants, il y a de ça un petit moment, autour de la question, y a-t-il un colonialisme vert? On l'a bien compris, pour vous la réponse est oui, et ça ne date pas d'hier. Je propose un nouvel éclairage historique, donc c'est celui de la professeure Isabelle Surin, que vous connaissez, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Lille. Elle vient de co-diriger l'Atlas historique de l'Afrique, de la préhistoire à nos jours, aux éditions Autrement, et elle revient au micro de notre reporter Charlie Dupiot sur un exemple très documenté de dépossession, de délégitimation, celle des Kikuyu qui vivaient sur les hauts plateaux du Kenya où s'étaient installés les colons dès la fin du 19e siècle. On écoute Isabelle Surin.
Donc le système qui a été mis en place au début au Kenya, avant la Première Guerre mondiale et qui se renforce dans l'entre-deux-guerres, c'est le système des squatters, c'est-à-dire que les populations Kikuyu sont autorisées à rester sur leurs anciennes terres, dans leurs villages, anciennes terres qui appartiennent désormais, enfin qui font désormais partie de la plantation d'un colon. Ils ont droit de cultiver des petits lopins pour leur agriculture vivrière, mais ils doivent un certain nombre de journées de travail sur la plantation du colon. Enfin, le fait qu'on les appelle squatters est révélateur. Enfin, ils sont précarisés dans leur rapport à leur ancienne terre. Ils sont tolérés uniquement. Donc il fallait à la fois déposséder les populations tout en gardant la possibilité de bénéficier de leur force de travail. Bon, Jomo Kenyatta, qui ensuite devient un des présidents du Kenya indépendant, avait fait une thèse dans les années 30 sur les Kikuyu. Et il explique très bien tout ce processus de dépossession et quels sont ses effets sur la société Kikuyu. Pour les Kikuyu, les terres, c'était aussi un moyen de s'installer, de fonder une famille, de se marier. On ne pouvait pas, si on n'avait pas de terres, fonder une famille. Donc il fallait avoir des terres, sinon on n'existait pas socialement. Hein. Et le mouvement Mao Mao, à la fin de la lutte contre les Britanniques dans les années 50, reprend cette thématique de récupérer les terres. C'est la principale motivation de ce mouvement Mao Mao, et animé essentiellement par les Kikuyu au début, récupérer les terres dont ils ont été spoliés.
Guillaume Blanc, est-ce qu'on peut comparer cette spoliation des Kikuyu au Kenya à ce qui se passe aujourd'hui ? En l'occurrence, en Éthiopie, où vous avez travaillé, pays qui n'a pourtant jamais été colonisé.
Oui, alors bien entendu, on n'est pas dans un ordre colonial à maintenir coûte que coûte, mais la dépossession de populations qui vivaient d'une agriculture de subsistance, oui, totalement. Dans la plupart des parcs, comme le disait le collègue écologue au tout début de l'émission, c'est entre 1 à 14 millions de personnes qui ont été expulsées. Dans le parc national éthiopien que j'étudie particulièrement, les populations ont été expulsées sur les recommandations de l'UNESCO et de l'UICN en 2016. 2500 paysans qui ont été expulsés. Cette dépossession continue, puisque pour naturaliser l'espace, il faut le déshumaniser, puisqu'il est habité. L'Afrique est habitée, elle est cultivée. Donc la dépossession continue, mais pas dans la même logique du colonialisme tel qu'il existait avant les indépendances, dans cette logique du colonialisme vert, et c'est pour ça que j'ai appelé le livre « L'invention du », c'est que c'est un phénomène qui se développe après les indépendances essentiellement.
C'est ça, alors qu'on fête hein, aujourd'hui même, cette année, les 60 ans de l'indépendance du continent, et aujourd'hui même les 60 ans de l'indépendance du Mali, hein, on pense à nos amis maliens, tout particulièrement. C'est donc après, c'est au moment de la décolonisation, à qui profite à la fois le mythe de l'Éden vert, de l'Éden africain, de cet Éden vert, et en même temps cette dépossession du continent, ou cette mise en parc, comme vous le dites, de l'Afrique.
Alors, sur la chronologie, en fait, là où c'est intéressant, c'est que les administrateurs coloniaux qui étaient en charge des parcs nationaux, à la fin des années 50, ils se retrouvent mis au chômage par les indépendances. Et donc, ils vont se reconvertir dans ce qu'on va appeler les experts internationaux. Ils sont embauchés par l'UNESCO, par l'UICN, et ensemble...
Ce sont les mêmes qui aujourd'hui travaillent pour l'UNESCO, l'UICN.
Alors, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont décédés. Ils avaient 20-30 ans à l'époque. Certains ont servi au Kenya pour réprimer la révolte des Mao-Mao. Là, il faut lire le livre où je fais des parcours d'experts. Enfin, je suis les trajectoires de ces experts.
C'est impressionnant.
Mais oui, ils ont 20-30 ans. Et en 1960, même 61 pour être précis, ils organisent une grande conférence avec l'UICN, l'UNESCO, les Nations Unies. Et ils ont l'idée de mettre en place, de mettre sur pied une banque. Une banque dont la première fonction serait de lever des fonds pour, et là je cite les archives, poursuivre le travail accompli dans les parcs nationaux africains. Cette banque, elle va être créée en 61, c'est le Fonds mondial pour la nature, c'est-à-dire en anglais le WWF, le World Wildlife Fund for Nature. Et donc, ils vont créer cette banque, et là les experts se déploient dans toute l'Afrique, et jusqu'à la fin des années 70, ce sont les mêmes qui vont rester. Aujourd'hui, ce ne sont plus eux, ce sont des consultants en patrimoine. Mais l'esprit est exactement le même. Malheureusement, j'aurais aimé raconter une autre histoire dans le livre. Aujourd'hui encore, ils ne protègent pas la nature africaine, ils protègent une idée coloniale de l'Afrique. Un Éden africain qui n'existe pas, puisque même les études sur lesquelles ces experts s'appuient ne sont pas fondées empiriquement.
Vous n'allez pas vous ne vous êtes pas fait que des amis, parce que c'est vrai que vous n'épargnez pas ces grosses institutions internationales, l'UNESCO qui décrète patrimoine naturel en péril en Afrique, alors qu'elle décrète patrimoine naturel ou même patrimoine culturel en Europe, en Asie ou ailleurs. Vous ne vous faites pas des amis du côté des ONG, hein, le WWF, parce qu'à l'intérieur il y a des gens très sincères, mais qui ont quoi ? Une sorte de... qui perpétuent un mythe sans s'en rendre compte ? Il faudrait quoi ? S'arrêter ? Ouvrir les yeux, se rendre compte qu'on est en train de vouloir, entre guillemets, protéger, sauver une nature, des animaux, au détriment des hommes et des femmes qui y vivent depuis toujours et qui savent faire avec, plus ou moins.
Alors, c'est vrai que je sais que je ne me ferai pas des amis là-dessus, mais je dois dire que c'est jamais agréable d'être critiqué, hein, bien sûr, mais j'ai plus en tête tous les paysans éthiopiens qui m'ont accueilli dans leurs montagnes pendant des années et que moi, j'ai vu tomber dans la pauvreté une fois qu'ils ont été expulsés.
Citez Samson, hein.
Oui, alors les noms ne sont pas...
Samson, Tesfa, qui disent
la nature, c'est une ressource, c'est ce qui nous fait vivre et on veut nous expulser pour protéger la ressource, mais la ressource, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, qui sont plongés dans le désarroi et puis dans la pauvreté, tout ça pour des parcs nationaux. Et là où j'insiste là-dessus, ce livre est pour la lutte écologique. Il faut regarder les faits. Protéger, aller visiter un parc naturel en Afrique, sachant que 90% des touristes sont occidentaux. Je me suis amusé dans le livre à faire le coût écologique d'un parc. Que ça soit les bâtons de randonnée, le Gore-Tex, la veste en Gore-Tex, la polaire, le smartphone. Tout ça, c'est de
l'équipement du touriste.
Voilà, c'est de l'extraction de bauxite, de téflon, de résidus de pétrole, de néodyme, de tantale. Et je compte pas les 0,5 tonnes de gaz à effet de serre pour le voyage en avion. Aller visiter un parc naturel en Afrique, c'est l'équivalent de détruire dans le monde les ressources qui sont mises en parc dans un espace. Et où, en plus, les populations sont privées du droit à la terre. Et pourquoi est-ce que l'on fait ça ? Eh bien, c'est parce que plus la nature disparaît chez nous, plus on est incapable de la sauver chez nous, eh bien, on peut s'exonérer des dégâts que l'on cause partout dans le monde en se disant « oui, mais on la protège là-bas ». Et toutes les ONG, comme vous le dites, je pense également qu'ils sont tous très sincères, disons la majorité. Mais s'ils acceptent la réalité de dire « mais ces chiffres ne sont pas forcément vrais, un parc national, c'est vrai que ça dégrade », cette réalité est déjà difficile à accepter. Mmh. Mais ce qui sera encore plus difficile, c'est le deuxième constat, que on s'attaque à ces paysans parce qu'on ne veut pas s'en prendre à nous-mêmes. Parce que ce qui doit changer, si on veut sauver la planète, adoptons le mode de vie de ces bergers qui vivent sans électricité, qui se déplacent à pied, et débarrassons-nous de nos smartphones, de nos ordinateurs, des voyages en avion, de notre mode de vie consumériste. Et ça, c'est un constat encore plus difficile à accepter.
Ça, ça fait encore plus mal, hein, au nord comme au sud. On continue de s'interroger autour de la question, y a-t-il un colonialisme vert ? Question empruntée à votre ouvrage, Guillaume Blanc, L'invention du colonialisme vert, dont je vous rappelle, chers amis auditeurs et auditrices, que nous avons un exemplaire à vous faire gagner. Vous êtes déjà nombreux à réagir sur le sujet en direct sur nos réseaux sociaux et sur l'antenne de RFI. On écoute votre choix musical, Guillaume. Star de la musique éthiopienne en Éthiopie, où vous l'avez écouté et découvert. Il s'appelle Abinet Agonafir. Ça ne doit pas être... Ça va ?
Si, si. Si.
Allez,
si, c'est
on écoute Soussen sur RFI.
Baish, baish, altagbish Laftan kwanda alilayish Soussen tiyem alkortish Baish, baish, altagbish Laftan kwanda alilayish Susen tiye mal kotej Susen rabent mate Susen shimfatin bertatin Susen rabent mate Susen shimfatin bertatin
Éthiopien d'Abinet Agofir sur RFI.
Agonafir,
merci pour ce choix. C'était un tube. On danse avec les épaules, hein, c'est ça.
Oui, voilà. Et c'est la première fois. J'ai commencé mes recherches en Érythrée en 2006 et puis en 2007 en Éthiopie. Et là, à ce moment-là, c'était un tube en Éthiopie. Vraiment, voilà, c'est une chanson d'amour. Soussé, c'est-à-dire mon addiction. Et donc, il s'adresse à son addiction.
Vous êtes notre invité, Guillaume Blanc, autour de la question « Y a-t-il un colonialisme vert ?» Question empruntée au titre de votre ouvrage « L'invention du colonialisme vert pour en finir avec l'Éden africain ». Ouvrage dans lequel vous dénoncez notre propension occidentale, aujourd'hui très mêlée de bonne conscience écologique, qui nous pousse, dites-vous, à préserver une Afrique sauvage, un Éden africain qui, au fond, n'existe que dans notre imaginaire. Et vous vous écorchez, vous attaquez au passage l'UNESCO ou les ONG environnementales qui continuent de vouloir sauver l'Afrique, au mépris, j'ai envie de dire, des Africains. Il n'y a pas que les ONG environnementales qui en prennent pour leur grade. Il y a aussi les États africains eux-mêmes. Je vous propose de nous arrêter sur le cas du Gabon, le fameux Gabon vert des présidents Bongo. Avec la création de 13 parcs nationaux, 11% du territoire gabonais protégé. À l'initiative du biologiste, aventurier et célèbre défenseur de l'environnement anglo-gabonais, Lee White, citoyen d'honneur du Gabon, que nous avions rencontré à Libreville autour de cette question précisément des parcs nationaux. Je lui avais demandé précisément comment concilier préservation de l'environnement avec la protection des populations qui y vivent et qui en vivent. Écoutez sa réponse, était en direct et en public à l'Institut français de Libreville en juin 2014.
C'est tout à fait ça la question qu'on se pose, et les parcs, ça fait partie d'une stratégie de trouver un équilibre entre utilisation et la préservation de nos ressources naturelles. Donc on parlait de la pêche, Si vous avez mangé de poissons ou des crevettes ici à Libreville, le rouge, le capitaine, tous ces poissons sont nés dans les parcs nationaux, dans les mangroves d'Akanda et de Pongara. Donc c'est une des services que les parcs nationaux donnent à la population gabonaise. Hein. Si on n'a pas de mangroves, si on n'a pas ces parcs, on n'a plus de poissons. Hein? Donc les parcs pérennisent
les ressources, les poissons, les stocks de poissons. Ouais.
Après, on parle ici aujourd'hui grâce à l'électricité. Hein, la moitié de notre électricité vient du parc national de Monte Cristal, où les bassins versants des montagnes alimentent les barrages hydroélectriques en eau. Hein? Donc sans le parc national, il n'y a plus d'eau pour les barrages, donc il n'y a plus d'électricité pour les Libreville. Et donc, les parcs nationaux nous donnent beaucoup de bénéfices. Hein. Au même temps, il y a effectivement des populations qui vivent autour de ces parcs. Donc on fait tout ce qu'on peut, et la loi au Gabon formalise l'implication des populations urbaines, les populations autour du parc, dans la gestion du parc. Donc, on a les comités locaux de consultatifs. Qui sont associés, consultés dans la gestion des parcs nationaux.
Et comment établit-on une carte des parcs nationaux? Comment est-ce qu'on choisit des zones à sanctuariser, à protéger?
Ah, mais on est ici pour parler de la recherche. Et entre 1999 et 2002, je menais une équipe d'environ une centaine de chercheurs, surtout des chercheurs gabonais de l'IRET, de l'IRAF, de
l'Institut de recherche en écologie tropicale.
Exact, de l'Université Omar Bongo. Joseph, qui est là avec moi, a participé dans ces évaluations. Donc on a cartographié toutes les zones avec les plus de grands mammifères, avec les plus des espèces endémiques, des oiseaux, des poissons, des grenouilles. On a cartographié les activités humaines pour essayer d'éviter les zones qui étaient beaucoup utilisées par les populations. On a cartographié les ressources minières. On a cartographié la potentiel touristique. Donc on a essayé de trouver le juste milieu entre protection et utilisation et de créer des parcs avec le plus de possibilités de développement touristique.
Guillaume Blanc, j'imagine que vous voulez réagir à ces propos de Lee White sur notre antenne. C'était en juin 2014. C'était en public à l'Institut français de Libreville autour de la question des parcs nationaux au Gabon.
Oui, alors c'est vrai que le Gabon et Lee White, c'est vraiment l'illustration la plus criante, en fait, on va dire, de l'alliance entre l'expert occidental, le dirigeant africain, et cette alliance qui se fait autour du mythe de l'Éden africain. Puisqu'on voit bien que Lee White dit que les parcs nationaux sont les seules réserves de poissons et que sans ça, on pourrait pas en manger à la capitale. Mais il faut bien que des gens les pêchent, ces poissons, pour que les gens de la capitale les mangent. On a l'impression que les parcs sont coupés du monde. Et en fait, Lee White, en 2002, c'est Omar Bongo qui l'a employé donc pour mettre 11%, vous l'avez dit, du pays en parc. Il faut quand même se rendre compte, c'est la taille de la Bretagne de Brest à Rennes. On ne peut pas imaginer que ça ne soit pas des espaces peuplés. Et puis ensuite, Bongo...
Oui, quand il parle de la population, Lee White dit toujours autour des parcs.
Il ne précise pas que la population a été déplacée et mise autour des parcs. La grande enquête de BuzzFeed en 2019, où ils ont dénoncé toutes les exactions dans les parcs nationaux africains asiatiques, le Gabon en fait partie. Là, ce que Lee White ne mentionne pas non plus, c'est qu'il était le dirigeant de l'antenne gabonaise de la Wildlife Conservation Society, une grande ONG des États-Unis. Et ensuite, Bongo, le fils, cette fois-ci, l'a nommé en 2009 directeur de l'Agence des parcs nationaux. Lee White, immédiatement, a mis en place la gendarmerie des parcs nationaux, donc spécialisée, une milice militarisée, armée spécialisée dans la lutte. Il est devenu ministre depuis 2019. Et donc, pour le clan Bongo, c'est un moyen, de se faire reconnaître par la communauté internationale, de redorer quand même un peu son blason. Les parcs nationaux, c'est aussi un bon moyen de planter le drapeau national dans des territoires qu'on peine à contrôler. Dans toute l'Afrique, mais ça a été le cas aux États-Unis, en Europe, les parcs sont toujours créés à l'origine dans des territoires de montagne, dans des territoires sécessionnistes, dans des maquis. Donc c'est un bon moyen aussi de contrôler des populations. Et donc on voit cette alliance entre l'expert, le dirigeant, mais l'habitant est toujours le plus grand perdant. Mais c'est bien le colonialisme. Le colonialisme a fonctionné avant les indépendances parce qu'il y avait aussi un certain consentement à l'empire de la part d'élites africaines, je ne dis pas du tout que les populations consentaient, mais certaines élites, aujourd'hui le colonialisme vert ne marcherait pas si les États africains ne savaient pas l'instrumentaliser et en bénéficier.
Alors vous parlez aussi, Guillaume Blanc, dans votre ouvrage, hein, vous venez de le dire, de ces gardes forestiers, de cette violence liée aux gardes forestiers, mais en même temps, il faut bien lutter contre le braconnage, il faut bien... Enfin, c'est compliqué, c'est une affaire complexe, c'est pas noir ou blanc.
Non, non, exactement. Et oui, c'est extrêmement complexe. Y a deux choses. D'abord, il faut voir, les réseaux de braconniers existent, des grands réseaux armés, mais... Ces réseaux-là sont à combattre, mais ce ne sont pas les mêmes qui vont être chassés généralement. Les
pays... Oui, ceux qui sont chassés, ce sont ceux qui vivent depuis des centaines, voire milliers d'années.
Voilà, ce sont ceux qui vivent d'une agriculture de subsistance. Et vraiment, j'insiste toujours là-dessus, mais ceux qui sont chassés, les plus grandes victimes des politiques coercitives de la nature, financées généralement par des ONG, on va dire occidentales pour être simple, parce qu'il y a aussi des ONG africaines, bien sûr, mais majorité occidentale, ce sont des gens qui ne participent pas à la crise écologique. Ils produisent leur propre nourriture, non pas de voitures, etc. etc.
Oui, là, ce sont eux qui souffrent en premier. Il y a une espèce d'injustice absolue.
Voilà, c'est la double injustice. Ce qu'il faudrait valoriser, c'est par exemple ce que l'UNESCO, le WWF, valorise en France. Une forme de co-évolution entre l'homme et son environnement, c'est-à-dire une sobriété écologique, une utilisation raisonnée, rationnelle des ressources. Mais pour cela, et c'est pour ça que j'ai choisi l'histoire pour aborder ce problème dans le livre, même si le livre va jusqu'à 2020 et s'attaque énormément au présent, mais l'histoire nous permet de faire face sereinement à cette erreur. Le mythe de l'Éden africain est un mythe et il faut résoudre la crise écologique et donc pour ça, urgemment, abandonner cette idée de paradis naturel sans homme.
Déconstruire hein, autour de la question comment en finir avec le mythe de l'Éden africain, comment mettre à nu finalement les habits verts du colonialisme en Afrique, je propose un nouvel éclairage, c'est celui du professeur Gilles Boeuf, alors grand défenseur de la biodiversité, qui a un temps dirigé d'ailleurs le Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et qui lui aussi reconnaît à sa manière les contradictions de notre époque entre préservation de la biodiversité et puis double peine pour ceux qui y vivent. On l'écoute, c'était au micro de Marjorie Philibert.
Comment concilier une protection de la nature, la conservation d'espèces et d'espaces avec le développement humain ? Ben simplement en démontrant que les humains ne peuvent pas s'en passer. Alors après, la question, c'est de ne pas penser à la place des Africains. Ce sont à eux, effectivement, de mettre leur zone protégée en action aujourd'hui. Et quelquefois, c'est très difficile dans des conflits de guerre. Au Congo, c'est la guerre en ce moment. Alors qu'est-ce qu'on sauve les humains? Comment vont se comporter nos gorilles de montagne? Il en reste 800 dans la zone de Kisoro, autour de la frontière Ouganda, Rwanda, Congo. C'est des questions très compliquées. En tout cas, on ne peut pas cesser d'imaginer qu'on ferait demain, effectivement, des parcs ou des réserves sans tenir compte du développement humain qui est à côté. Comment on rend ces populations-là heureuses de vivre à côté de ces parcs? C'est des vraies questions aussi. Et puis qu'on arrête, effectivement, d'organiser un tourisme de masse qui contribue si fortement à détruire ces écosystèmes qu'on veut protéger, bien entendu. Donc, il y a un problème de limite action. C'est un subtil compromis auquel est confronté chaque directeur de réserve.
Vous êtes d'accord avec Gilles Boeuf? C'est un compromis à trouver dans toutes les réserves, au nord comme au sud, pour une fois qu'on ne fasse pas de différence?
Oui, exactement. Ça, hein, pour une fois qu'on ne fasse pas de différence, je suis tout à fait d'accord avec lui, un subtil compromis. Mais là où par contre, il faut faire une différence, la plupart des réserves, des parcs en Afrique, celles et ceux qui donnent des recommandations, ils ne connaissent pas les pays dans lesquels ils agissent. Moi, je les appelle dans le livre notamment, et avec une collègue, Marie Bridonneau, qui dirige le Centre français des études éthiopiennes à Addis Abeba, des Mr. Miles, c'est-à-dire des gens qui circulent de pays en pays. La reconnaissance d'un consultant est proportionnelle au nombre de pays qu'il traverse. Mais moi, ce livre est le produit de 10 ans de recherche. Des experts qui ne parlent pas la langue, qui ne connaissent pas les dynamiques locales, régionales. Comment veulent-ils prendre en compte ces populations? En Éthiopie, par exemple, s'ils allaient parler aux paysans, moi je ne parle pas très bien amharique du tout, mais tout de même, ils verraient par exemple que pour les paysans, le seul mot qu'il y a qui se rapproche de nature, c'est « tepetro ». Ça veut dire ce qui se crée et se recrée autour de nous. Ce n'est pas du tout la même idée que la nature qui pour nous est quelque chose qui est en train de disparaître ou qui est sans les hommes.
Et ce n'est pas immuable.
Et ce n'est pas immuable du tout. Mais il faut arriver... Les institutions internationales disent qu'elles mettent en place depuis les années 90 une conservation communautaire. Certes, cette conservation communautaire, toutes les enquêtes le montrent, elle n'atteint jamais ses objectifs sociaux, tout simplement parce qu'elle se passe du consentement des premiers concernés, c'est-à-dire la communauté.
Décrivez-nous un peu ce parc du Simien en Éthiopie et puis tous ceux avec qui vous avez parlé. C'est extrêmement poignant parce que ça s'ouvre et ça se termine autour de ces... Vous avez donné d'autres noms à ces agro-passeurs, mais qui sont ces terrifiants. Ils ont été dépossédés de leur terre, ils ont un savoir-faire. Comment est-ce qu'ils pourraient imaginer autrement et autre chose, de ne pas être simplement évacués de leur parc naturel pour protéger, pour le mettre sous cloche?
Alors, il y a des habitants du Sémienne qui maintenant réussissent à bénéficier du tourisme et qui en font bénéficier leur communauté, certes. Donc, il y a des avancées.
Parce qu'il y a des initiatives partout.
Voilà, il y a des initiatives. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont devenus guides, etc., et qui ont des initiatives pour les agriculteurs, etc. Mais on a cette conservation communautaire. Mais les pratiques n'ont pas changé puisque les personnes restent expulsées.
Oui, ils n'ont pas le droit de rester là où elles...
Voilà, alors que c'est une conservation communautaire. Mais on dit, vous allez être déplacé, ensuite vous bénéficierez du tourisme. Mais
c'est pour ça qu'on dit toujours, les gens qui vivent autour, autour, les riverains du parc national.
Voilà,
parc
et c'est pour
naturel.
Ça que je le disais au début, les parcs ne sont pas vides, ils sont vidés, leurs habitants. Et ensuite, il faut regarder au ras du sol, au quotidien, comment ça se passe. Moi, de ce que j'ai pu voir dans 2-3 parcs nationaux en Éthiopie et de tout ce que j'ai pu lire sur l'Afrique en général, parce que beaucoup de gens travaillent là-dessus, je suis loin d'être seul, c'est des enfants qui ne vont plus à l'école mais qui mendient auprès des touristes, puisque c'est beaucoup plus rentable, et puisque les touristes sont fans d'aller donner des stylos à des enfants qui, parce que ce sont des enfants, ils vont aller les revendre pour s'acheter des sucreries, généralement. C'est aussi... des agriculteurs qui commencent à dénoncer leurs voisins en disant « lui, il a été dans la forêt, je l'ai vu », parce qu'il espère avoir un emploi de garde. C'est des populations qui parfois attribuaient une valeur sacrée à la grande faune, mais qui aujourd'hui lui attribuent une valeur monétaire, mais quid d'un temps de pandémie? Et donc quand les touristes ne viennent plus, quelle valeur va avoir cette faune? Et ainsi de suite. La conservation communautaire ne peut pas être communautaire lorsque la communauté n'y consent pas. Et c'est bien ça, compromis subtil, oui, mais commençons par la base.
Commençons par la base et commençons par les populations eux-mêmes qui ont un savoir-faire, un savoir-vivre,
oui,
évident, sur place.
Et que tous les écologues reconnaissent, les vrais écologues.
Absolument, et de plus en plus, tout de même,
oui,
heureusement.
Oui, bien entendu.
Bon, il y a encore du boulot, on continue de s'interroger autour de la question, y a-t-il un colonialisme vert? À l'écoute d'une autre formidable voix éthiopienne, qui elle non plus ne mâche pas ses mots, elle est la rebelle Aster Aweke sur RFI. Esther Aweke, grande voix éthiopienne sur RFI, autour de la question du colonialisme vert que vous dénoncez dans votre ouvrage, Guillaume Blanc, en donnant notamment la parole à Samson, son prénom a été changé, agro-pasteur des montagnes du Simiens, qui est né dans ce parc naturel du nord de l'Éthiopie, dont il a été chassé. Mais comment faire pour préserver justement la vie de Samson et de ses proches, de ses communautés d'agro-pasteurs du continent? Comment leur permettre de préserver eux-mêmes leur environnement dans le contexte actuel, entre crise économique, guerre civile, crise sanitaire et menaces terroristes, rien que ça. Je propose de nous arrêter au Niger, au cœur de la réserve de girafes de Kouré, non loin de Niamey, qui a été le théâtre d'une terrible attaque terroriste le 9 août dernier. 8 personnes, dont 6 humanitaires français, ont été tuées dans une attaque présumée terroriste, ce qui met encore plus en danger l'avenir de cette réserve, qui abrite pourtant les dernières girafes du Niger, 650 en tout, qui contribuent à faire vivre les populations locales. Je propose d'écouter le témoignage inquiet du directeur national de la faune, de la chasse, des parcs et des réserves du Niger, Samaïla Sahailou, joint ce matin même par téléphone au Niger par notre reporter Charlie Dupio.
Effectivement, la zone de Kouré est une zone emblématique et touristique d'importance pour le Niger parce qu'elle regorge une espèce emblématique, dernière population des girafes africaines vivant à Liberté et à 60 km de la capitale du Niger et dont l'accès est facile. Les intérêts touristiques varient suivant des années. On peut avoir 2000 visiteurs et des bonnes années où il y a eu beaucoup de conférences à Niamey où vous allez voir l'année, on peut avoir 7000 visiteurs par an. Et le tourisme local, il faut rappeler que les résidents, c'est plus important, en tout cas, et plus de 70%. Et en termes d'éducation environnementale, vous avez et plus de 2000 visiteurs pour les élèves scolaires. Par rapport à la situation que nous avons vécue, on s'aperçoit que la sécurité n'est pas garantie. C'est une situation difficile pour les populations qui aujourd'hui considèrent la girafe comme une espèce intégrée de leur communauté et qui, à travers elle, ils ont connu beaucoup d'étrangers. Ils ont gagné par rapport donc aux retombées et produits artisanaux. Aujourd'hui, ils sont dans une situation critique. Il y a une association de 12 guides qui, depuis leur bas âge, leur activité principale, c'est le guidage. Parce que le tourisme, il faut le prendre toutes ses filières. Et donc, cette zone de Kouré à travers la girafe, c'est que beaucoup de projets de développement se sont créés, et notamment le groupement des femmes qui arrivent à avoir beaucoup de ressources pour développer l'apiculture, pour développer le maraîchage. Toutes les ONG aujourd'hui qui interviennent dans la zone, c'est à travers les girafes qui interviennent. Et avec ce qui s'est passé, et malheureusement, toutes ces ONG et projets ont arrêté les activités. Nous sommes en train de nous battre pour soutenir les populations locales par rapport à ce qui s'est passé et l'attaque insensée que vous connaissez.
Quelle piste pour ces habitants de la région et de la réserve de Kouré au Niger, qui ont le choix en gros entre terrorisme et pauvreté? Il ne s'agit même plus là de protéger l'environnement, puisque eux-mêmes on vivent avec leurs girafes et ont protégé les girafes, mais bien la vie de tous, hein, hommes comme animaux.
Oui, et c'est là la difficulté. J'ai trouvé que c'était très poignant, comme il dit, entre ces ONG qui sont parties, celles qui aidaient pour le maraîchage, pour l'agriculture, et quelles ONG restent en ce moment à Kouré. Le grand projet en ce moment, c'est peut-être avec African Parks ou peut-être avec d'autres, c'est de protéger les girafes. Le problème, c'est que ce parc de Kouré, qui est intégré, qui fait partie de l'ensemble des réserves qui font partie du parc du W, c'est que c'était un espace de refuge pastoral dans les années 50-60 face aux sécheresses. Donc un refuge pastoral, mais saisonnier, pendant les saisons sèches. Et le Burkina Faso, le Bénin, et donc après on retrouve avec l'embranchement du Niger, hein, c'est un parc transfrontalier, en fait, ont mis en place des politiques de villagisation qui ont poussé beaucoup de pasteurs, de bergers...
Qui venaient trouver refuge de manière saisonnière dans ces parcs.
Dans ces parcs, puisqu'il n'y a pas de cultivateurs dans ces parcs, donc ils n'étaient pas en confrontation, en compétition. Et en fait, ils ont été déclassés socialement. Et déjà que ce parc était un refuge pastoral, là, c'est devenu un refuge politique. Et là arrive la dimension géopolitique. L'État islamique au Grand Sahara, donc une branche, on va dire, pour simplifier, de Daesh, qui va profiter de ce déclassement pour tenter un recrutement local. Et donc, donc.
C'est-à-dire que ces parcs, au fond, ça peut être une sorte de réserve de futurs djihadistes parce qu'ils sont djihadistes, parce qu'ils sont, ils n'ont plus aucun autre moyen de subsistance et qu'ils sont mis à l'écart de la société,
voilà,
en gros.
C'est...
Hein.
Oui, c'est un des dangers. C'est un des dangers. Et ce que ça montre, en tout cas très bien, c'est que cette grande idée de parc transfrontalier que défendent les ONG internationales, d'une Afrique finalement qui n'aurait pas de frontières, où l'Afrique serait avant tout naturelle, La politique internationale de la nature masque très mal les réalités locales, et c'est bien celle-ci qu'il faut prendre en compte. Et donc, si aide internationale il doit y avoir, c'est une aide, j'allais dire, par des gens qui connaissent extrêmement bien, et en tout cas, la solution ne sera pas soit la girafe, soit l'homme. L'un ne peut pas être sauvé sans l'autre. Et malheureusement, beaucoup d'ONG font un choix exclusif. Et c'est ça qu'il faut changer, et pas uniquement dans le discours.
Pas uniquement dans le discours, parce que c'est ça, en fait. Dans le discours, ça se transforme.
Le discours est toujours communautaire.
Voilà, le discours est toujours communautaire. On dit à chaque fois qu'on veut soutenir les éléphants, les girafes. On le fait avec la population. On a bien compris que ça ne marcherait pas autrement.
Oui.
Mais ce que vous dites aussi, c'est que derrière, alors des bons sentiments, une bonne conscience écologique, se cache beaucoup de choses. Donc dans notre imaginaire, cette espèce de mythe de l'Éden africain, mais aussi aujourd'hui d'autres questions géopolitiques, une mainmise, il faut aller voir derrière. Il ne faut pas se laisser avoir par notre bonne conscience. Il faut finalement être au plus près des habitants qui, eux, savent.
Voilà. Oui, exactement. Il faut être au plus près. Et pour ça, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé à François-Xavier Fauvel de faire la préface de ce livre, son grand combat.
Professeur au Collège de France sur la nouvelle chaire archéologie, histoire de l'Afrique.
Histoire, première chaire sur l'histoire de l'Afrique. Et son grand combat est de redonner toute son historicité à l'Afrique. Mais il travaille avec énormément de collègues africains, archéologues, historiens. Et c'est le but de ce livre, à sa modeste échelle, en se disant, pour tous ces problèmes, la solution viendra déjà à partir du moment où on se dira, mais l'Afrique a une histoire, et cette histoire n'est pas, on ne dit pas, l'Europe a une histoire, la France en a une, l'Italie en a une, la Roumanie en a une,
chaque pays,
pour le Gabon, le Ghana, le Rwanda, le Congo, l'Éthiopie, ce ne sont pas... c'est pas un grand tout homogène, et il faudra bien connaître chaque situation, sinon... tout ne restera que de l'ordre du discours.
C'est ça, c'est pas un grand Éden vert, hein. C'est pas du tout ça l'Afrique, c'est l'Afrique des Africains,
ce sont des
pays et ce sont des mondes africains.
Oui,
et
des sociétés. Des mondes africains, des sociétés, exactement.
Merci infiniment Guillaume Blanc d'être venu nous le rappeler en direct pour partager donc toutes ces pistes d'indignation, d'interrogation et de recherche. Pour en finir avec l'Éden africain, ça c'est le sous-titre de votre livre, L'invention du colonialisme vert, à lire absolument pour sortir des préjugés, des idées toutes faites. Je vous rappelle que nous avons un exemplaire de ce livre, exemplaire justement, à vous faire gagner, chers amis, auditrices et auditeurs qui êtes sur le continent. Il vous suffit de nous le demander par mail sur notre page Facebook. À bon entendeur, merci Guillaume Blanc et vous revenez quand vous voulez.
Merci à vous.
Contacter autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous réécouter bien sûr en podcast et à volonté qu'on se le dise. Au plaisir de vous retrouver demain avec le physicien et philosophe Étienne Klein autour d'une autre épineuse question d'actualité. La science dit-elle le vrai? Et comment retrouver justement ce goût du vrai en science mais aussi ailleurs? Avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses et Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci de votre fidélité, de votre interactivité, vos messages, vos questions nous inspire, m'inspire, et même si nous ne les lisons pas toutes à l'antenne, elle nous guide. Surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.